Radio Spirale. En février 2011, la romancière française d'origine sénégalaise Fatou Diomé était de passage à Montréal. Dans cette causerie, l'auteur de « Celles qui attendent » et de « Inassouvi nos vies » retrace son parcours hors de l'ordinaire et parle de son rapport à l'écriture. La rencontre était animée par Françoise Naudillon et a eu lieu à la librairie Olivieri.
Nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir Fatou Diom, qu'on va présenter tout à l'heure, mais je voulais vous prévenir que cette émission est enregistrée sur Radio Spirale et que vous pourrez la réécouter sur Internet, probablement. Merci. Donc, Fatou Diom, bienvenue à Montréal.
Merci, c'est un plaisir.
On espère que vous n'avez pas eu trop froid, vous avez échappé aux tempêtes de neige qui vous ont précédé. Mais j'imagine que le choc doit être assez difficile. Néanmoins, nous sommes ravis de vous accueillir ici. C'est un grand plaisir de vous accueillir à la librairie Olivieri et de vous présenter à un public qui, pour certains, pour en connaître quelques-uns ici autour de nous, vous connaissent déjà, vous ont lu, et puis pour d'autres qui vont vous découvrir. Et pour commencer, j'ai envie de dire que La vie de Fatou Diomé est un roman. Par les échos que l'on a de sa naissance dans le delta du Saloum, de son départ de cette île un petit peu éloignée de la capitale et de son séjour en Guinée, retour à Dakar, etc., pour arriver maintenant comme grande écrivaine reconnue en Europe, en France, traduite, étudiée dans de nombreuses universités. Pour une jeune femme qui est très jeune, vous avez un parcours assez extraordinaire. Et j'ai envie de vous poser d'abord la première question. Peut-être ne savez-vous pas que Montréal est une île. Vous êtes née dans une île. Et je me demandais si vous pourriez retracer votre parcours à partir de cette insularité. En fait, je vais commencer par une petite citation prise dans votre livre « Le vent de l'Atlantique » où vous dites ceci. « Cette société insulaire, même lorsqu'elle se laisse approcher, reste une structure monolithique, impénétrable, qui ne digère jamais les corps étrangers. » Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée quand j'avais lu « Le ventre de l'Atlantique » et je m'étais dit comment... De cette naissance particulière dans cet endroit qui est devenu le centre de votre œuvre, avez-vous pu rayonner ainsi à une échelle beaucoup plus vaste? Vous traversez les continents, vous voyez maintenant ici aux Amériques. Comment expliquer à la fois cette singularité de l'île, ce côté impénétrable, et votre parcours presque de grande nomade? Comment l'expliquer?
Bonjour. Ça va? C'est assez fort? Ah, la voix de Rambo. Merci d'être venu. Merci d'avoir bravé le froid, même si vous n'êtes peut-être pas très dépaysé comme moi. D'abord, je remercie Rina et Isabelle qui ont osé m'inviter. Donc, merci beaucoup à ces braves dames. Merci au consulat de France. Et puis, merci à toute la structure qui s'occupe du moi de l'histoire des Noirs. Et merci à ceux qui osent se promener donc, dans mes petites pages. Voilà, je suis ravie d'être là et d'être sur une île. Donc oui, mon lieu de naissance m'a peut-être aidée à avoir envie de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Je pense qu'il y a deux caractères extrêmes qui grandissent sur une île. D'un côté, vous avez les gens qui sont aussi sédentaires que nos cocotiers parce qu'ils pensent que le monde commence et s'arrête sur notre île. Et puis de l'autre côté, vous avez l'appel de l'horizon. On a envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et j'avais cette curiosité-là, toute jeune, et aussi une naissance, oui, particulière, qu'elle n'ose pas développer. Bon, je suis ce qu'on appelle un petit accident de jeunesse. Donc voilà, mes parents, ils m'ont eu, ils avaient 18 ans, et mon père n'était pas de cette île. Et donc, très vite, j'ai senti le regard qu'on pouvait poser sur un étranger puisque j'étais l'étrangère dès ma naissance. Et ça m'a beaucoup poussée à avoir envie de sortir de ce huis clos où j'étais la chose rapportée, qu'on excluait plus facilement que les autres, sans doute. Voilà.
Il y a une phrase qui revient souvent aussi chez vous et qui peut-être est issue de cette histoire. Quand vous dites « chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité ». C'est une espèce de phrase leitmotiv qu'on trouve dans le ventre de l'Atlantique. Est-ce que c'est la leçon que vous avez tirée de cette naissance dans cette île et de ce parcours-là ?
Oui, de tout mon parcours au Sénégal comme de mon parcours en France. J'ai quitté cette île, j'avais 13 ans, pour aller étudier dans d'autres villes du Sénégal, avec des noms comme Foundiougne, Sokone, Bassi, Soumbour, et enfin Dakar. Et l'exil, c'est déjà ça. Parfois, il suffit de changer de quartier pour se sentir exilé. Donc moi, je changeais de mon village, je partais dans des villes. Chaque fois, c'était un grade supérieur de modernité ou de taille, de grandeur. Et ces lieux étaient des espaces sans ancrage pour moi, je m'y sentais perdue. Et déjà, on promène sa solitude. Ce sentiment-là, je l'ai revécu en arrivant en France. Et cette manière de promener quelque chose que personne ne reconnaissait d'une manière exacte, ça vous pousse sans doute à creuser au fond de vous. Voilà, le nomade pour moi, c'est quelqu'un qui transporte un théâtre intérieur personnel.
Alors oui, le nomadisme, oui, mais aussi peut-être le sentiment de marginalité. Est-ce que cette question d'être toujours à côté, finalement, même à l'intérieur de l'île natale, on est quelqu'un qui a un regard forcément qui est distancié par rapport à la réalité que l'on vit, parce que les gens vous le renvoient. Est-ce que ce regard que vous avez eu petite ne vous a pas accompagné là aussi tout au long de votre parcours ? En fait, je veux dire par là qu'on a le sentiment en vous lisant que vous regardez toujours les choses sur une perspective bien différente de celle à laquelle on pourrait s'attendre.
Oui, ça me ramène à cette citation « Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité ». Je pense qu'on arrive à penser ça quand on s'est senti humilié dans la vie. Donc on a juste envie, un jour, d'occuper une chaise et que cette place-là soit légitime. Voilà, donc je pense que beaucoup de combats dans l'existence viennent de là. L'envie de se trouver à sa place, à sa juste place, à sa bonne place, une place que personne d'autre ne peut vous enlever. D'où mon envie d'apprendre avec le rêve un jour d'avoir un travail, assumer ma vie, ne rien demander à personne pour me sentir respectée et... Au moins, si on n'est pas aimé, être respecté dans ce qu'on est. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer, mais je pense qu'on peut imposer le respect et si on s'assume. Et ça, c'était ma quête à moi depuis toute jeune. Et je continue.
Une quête qui a été difficile, douloureuse. Vous avez exercé toutes sortes de métiers. Vous avez rencontré cette société française dans des circonstances difficiles. Tout le monde, vous l'avez...
D'abord délicieuse.
D'abord délicieuse, mais une grande déception maritale quand même, avec quelqu'un qui ne s'est pas montré à la hauteur de la situation.
Et oui, mais un élan qui ne touche pas son but, c'est une chute, quoi. Oui, j'ai eu un rêve formidable, une histoire d'amour. Il faut quand même être très, très amoureuse pour traverser un continent, traverser l'océan Atlantique pour les beaux yeux d'un homme. Il faut vraiment y croire. Eh bien, j'y croyais. Et en plus, je ne regrette pas. Parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais peut-être passé toute ma vie à me dire « L'homme de ma vie est parti sans moi. » Maintenant, je l'ai vécu. Je sais que ce n'est pas l'homme de ma vie. Et je ne regrette rien du tout. Donc voilà, je suis arrivée avec lui en France. Puis voilà, comme je dis, sa famille attendait Blanche-Neige. Et ce n'est pas moi. Donc j'ai compris que les carottes étaient cuites et je ne les mangerai pas avec eux. C'était un rejet total. Encore une fois, j'étais le cheveu sur la soupe. Voilà, je n'étais pas à ma place. Et cet homme-là est parti. Un jour, je suis rentrée de l'université, l'appartement était vide. Je pense que je suis restée prostrée, je ne sais pas combien de temps. Mais puis au bout d'un moment, je me suis dit, ben voilà, il n'y a que dans les contes de fées où on embrasse un crapaud, il devient un prince charmant. Ben moi, j'ai embrassé un prince charmant. Puis on est arrivé en France, il est devenu un crapaud, il faut que j'assume maintenant. Je suis toute seule et je découvre ma condition d'étrangère.
Alors, condition d'étrangère et maintenant condition d'écrivaine, comme on le dit au Québec. Vous avez, parce que je vous ai écouté, je pense que certains parmi nous aussi vous ont écouté ce matin à l'émission de Christiane Charette, où on rappelait un petit peu votre parcours, cette fois-ci dans le monde de l'édition. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous avez fait allusion à cet écrivain qu'on a déjà reçu ici, Alain Mabankou, qui vous aurait, enfin, qui aurait prétendu vous avoir découvert, alors que la réalité serait tout autre. Et c'est pas pour revenir sur cette anecdote, mais pour vous demander, est-ce que cette marginalité dont on a parlé déjà, est-ce qu'elle ne s'applique pas elle aussi dans votre posture d'écrivaine au sein d'une société éditoriale française? Vous cumulez les singularités d'une certaine façon, femme, noire, d'origine sénégalaise, certes, et est-ce qu'il n'y a pas toutes sortes de gens qui cherchent à parrainer ou essayer peut-être de vous caser alors que vous n'êtes pas casable, si je puis dire? Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'être une jeune femme d'origine sénégalaise, écrivaine à Paris? Est-ce que c'est si évident que ça? On sait que naturellement, il y a souvent beaucoup plus d'hommes, en tout cas issus d'Afrique, qui sont publiés. Est-ce que ça ne vous fait pas porter un fardeau quelque peu différent?
Alors, aucun. D'abord, parce que quand les gens veulent vous exclure, ils sont obligés de circonscrire un espace pour dire ça, là, c'est interdit. Bon. Puisqu'on m'a délimité l'interdit, ça veut dire que tout le reste m'appartient. Je suis d'une liberté incroyable, tout ce qui reste m'appartient. Vous voyez? Donc, c'est la perspective qui change. Si vous passez votre temps à dire « on m'a interdit ça, on m'a refusé ça », vous n'allez voir que les obstacles. Mais si je me dis « on a circonscrit cet espace-là pour me l'interdire » et le monde ne s'arrête pas à ça, ça veut dire que tout le reste, c'est le domaine des possibles pour moi. Moi, j'ai vécu comme ça. Par exemple, au village, quand je vivais un peu comme les garçons manqués ou je ne sais pas quoi, eh bien, tout ce qu'on m'interdisait en tant que petite fille me permettait d'expérimenter tout le reste. C'est ma vie à moi. Et maintenant, en France, j'ai décidé que je ne passerai pas ma vie à me justifier. Par exemple, je suis là, je fais des romans, mes parents ne savent même pas lire et écrire. Eh bien, ça, c'est leur histoire à eux, c'est pas la mienne. La mienne, c'est celle d'une fille qui a voulu étudier et j'ai aimé ça et j'ai continué. Et j'ai aimé écrire et j'ai continué. C'est ma manière à moi de porter mon fardeau existentiel. Je suis noire, c'est un hasard génétique. Je suis une femme, c'est un deuxième hasard génétique. Je viens d'Afrique, c'est un hasard géographique, comme une météorite pourrait tomber à Québec ou sur mon île. Ce sont des hasards de l'existence. Et au-delà de tout ça, il y a la personne humaine. Que je sois noire ou jaune, je suis d'abord une personne qui doit placer, enfin, qui doit trouver sa place dans la vie. Et c'est d'abord ça, mon existence à moi. Maintenant, c'est vrai que quand les gens n'arrivent pas à vous mettre sous tutelle, et la liberté, tout le monde en parle, mais elle est frais. Donc, chaque fois que les gens sont confrontés à quelqu'un qui est autonome ou indépendant, avec une vie que les autres n'arrivent pas à canaliser ou à maîtriser, ça fait peur. Donc voilà, vous avez des demandes de tutelle. Il y a des gens qui voudraient que je sois tout ce que je suis grâce à eux. Alors que moi, mes héros, je les revendique. Par reconnaissance, c'est moi qui désigne mes héros et je les porte au pinacle pour qu'on les reconnaisse par gratitude. Donc voilà, je trouve qu'on ne se revendique de rien. Tout ce qui est de sa manière naturelle et on n'a pas besoin de le revendiquer. Donc mon édition, ça n'a rien à voir avec Mabankou que j'ai rencontré la première fois de ma vie, le jour où je dédicaçais mon premier livre. Donc avouez que ce serait quand même étonnant de rencontrer celui qui va permettre l'existence d'un livre le jour où on dédicace justement le livre en question. Et c'est Madame Diop qui me l'a présenté, la patronne de Présence Africaine. Maintenant, il dit que Madame Diop lui aurait demandé son avis. Ça, c'est leur cuisine interne, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais juste que j'ai rencontré Madame Diop. Elle a lu mes nouvelles et elle m'a dit « je vais les publier ». Et donc, je serai toute ma vie reconnaissante à cette dame qui m'a posé le pied à l'étrier. Voilà.
Alors, c'est dit. Donc, cette posture, c'est vous qui décidez où elle est, où elle se place et quelles sont vos limites ou vos illimités.
Mais ce n'est pas une posture. Une posture, ça suppose une espèce d'analyse et de positionnement stratégique. Je ne suis stratège de rien. Je me contente juste de vivre ma petite vie. quand je faisais mes petits boulots en Alsace, j'étais loin de m'imaginer que j'allais passer d'un balai brosse à un ordinateur pour écrire des romans. J'écrivais des romans, je faisais des petits boulots pour payer mes études. Je voulais être journaliste ou professeur de français. Mes rêves s'arrêtaient là. La vie d'écrivain, c'était trop loin de mon monde pour me l'approprier. Mais je savais que j'écrirais tout le temps pour moi parce que ça me faisait du bien. Et ça continue comme ça d'ailleurs.
Et donc vous avez réussi d'ailleurs à devenir aussi cette journaliste littéraire. Vous avez animé une émission à France 3 Alsace pendant deux ans, je crois. Ouais. Qu'est-ce que ça a été pour vous? Après on va venir à votre œuvre, mais j'essaie un petit peu de situer votre parcours. Qu'est-ce que ça a été pour vous de vous retrouver à lire les autres, à faire agir les autres? Est-ce que ça a eu un impact sur votre propre vision de l'écriture? Comment ça s'est passé, ce dialogue avec les autres écrivains ou les autres artistes?
J'ai toujours gardé pour moi le plaisir d'une lectrice, hein, même maintenant. Je pense qu'il faut d'abord être un grand lecteur ou une grande lectrice pour justement aimer écrire. J'aime pouvoir admirer quelqu'un d'autre qui explore un sujet qui peut-être ne m'intéresserait même pas. Mais je vais découvrir, grâce à cette personne, les subtilités de cette question-là. Et donc, je lisais les auteurs que j'invitais, mais avec la boulimie de la découverte. Et je ne faisais pas critique littéraire, je m'interdisais d'être juge et partie. Je ne me sentais pas du tout légitime dans la casquette de la critique littéraire. Je lisais un livre quand je le trouvais bien écrit ou qu'il m'intéressait pour X raisons. J'invitais l'artiste en question, j'invitais aussi des musiciens qui nous jouaient quelque chose en direct. Et j'invitais des réalisateurs aussi de documentaires et leurs films passaient juste après mon émission. Et c'était rentrer dans l'univers d'un autre créateur, découvrir qu'est-ce qui l'anime lui, comment il pose ses questions au monde. Et donc on se contentait de présenter ça au public qui devait choisir après de lire ou pas lire.
Très bien. Donc la communication littéraire, médiatique, ça a été une expérience, mais ça n'a pas eu d'influence sur votre travail d'écrivaine.
Sur la manière de questionner, sur l'esthétique des gens, la technicité d'une œuvre me plaît aussi. Le travail derrière, le livre, ce n'est pas seulement une communication, il y a aussi une espèce de broderie fine derrière. Ce travail de la forme me plaît. Et donc, je regardais comment les autres faisaient. Et au-delà de tout ça, il y avait un plaisir tout à fait égoïste. C'est que quand j'allais à l'école, j'admirais une journaliste sénégalaise. C'était la première journaliste de la télévision sénégalaise, Sohna Dieng, j'en parle dans Le Ventre de l'Atlantique. Et je l'admirais beaucoup parce que je trouvais qu'elle parlait bien français, qu'elle était très élégante et tout. Donc, il y avait mon plaisir de petite fille de faire comme Sohna Dieng. Donc quand j'étais à France 3 Alsace, que je commençais donc le jingle de mon émission, je m'imaginais si Sohna Dieng était là, qu'est-ce qu'elle aurait dit. Et ça donne un moteur. Voilà, j'ai comme ça des gens que j'admire dans ma vie, et ce sont comme des lanternes comme ça au bout du chemin, et ça aide à avancer.
Alors, vous êtes à la tête d'une œuvre en devenir qui est déjà très impressionnante. Si je ne me trompe, il y a eu 4 romans de publiés, mais vous avez aussi exploré les nouvelles, les récits courts et même le récit de voyage. Et en particulier, l'année dernière, vous avez été très, très riche à cet égard. Juste pour les présenter très rapidement, votre premier texte a été publié par Madame Diop aux éditions Présence Africaine. La préférence nationale, c'est une série de courtes nouvelles. Quelle est la différence dans l'écriture entre le roman et la nouvelle? Est-ce que d'avoir passé d'un genre court, comme la nouvelle, comme on le trouve dans le recueil La préférence nationale, ça a été facile ensuite d'en arriver à des textes plus longs comme Le Ventre de l'Atlantique? Ou c'est le même souffle? Comment décide-t-on de s'arrêter finalement quand on écrit?
C'est l'histoire qui décide pour moi. J'ai publié aussi récemment de la poésie et c'est l'idée qui décide si elle va se développer en poésie, en nouvelle ou en roman. C'est comme un dépliant. Comme l'accordéon. Il y a des textes, je tire juste un petit fil et c'est sa limite et c'est son tempo. Et je sais que je dois m'arrêter là, c'est juste une nouvelle. Et ce que j'aime dans la nouvelle, c'est son côté, c'est incisif. C'est un peu comme le taekwondo, ça va très vite. Et j'aime cette manière de fixer un but et d'y aller tout de suite et sans beaucoup de détours. C'est un condensé de quelque chose. Et j'aime cette rapidité-là. Ça permet de passer d'une idée à l'autre tout en respectant une certaine cohérence. Et le roman, ce que j'aime, c'est qu'on peut creuser derrière, prendre des tiroirs secrets, faire des digressions, des petites pauses réflexives comme ça pour apprécier juste le plaisir d'écrire. Et j'aime jouer sur la frontière justement de ces genres-là. Par exemple, la Préférence nationale, il y a des journalistes qui disaient « Ah, le premier petit roman de Fatou ». Ça me faisait rire parce que ce n'était pas du tout un roman, mais j'ai essayé de redéfinir à ma manière une nouvelle, comme une nouvelle expérience d'une même vie. Parce que le français est très riche, il suffit de jouer parfois avec la sémantique. C'est une nouvelle, ça veut dire un genre court, mais ça peut être défini comme une nouvelle expérience d'une même vie. Et j'avais le même personnage qui grandissait au fur et à mesure des histoires. Du coup, ça pouvait se lire aussi comme un petit roman. Et pour le ventre de l'Atlantique, j'ai fait l'inverse. J'ai essayé de faire des récits enchâssés, c'est-à-dire de courtes nouvelles qui sont tellement imbriquées qu'elle dessinait ensuite une grande et même histoire romanesque. Et puis pour Ketala, j'ai essayé de mettre du théâtre avec une narration directe, avec le discours direct, et les objets prennent la parole et parlent directement. Et ce sont ces dialogues-là qui vont s'emboîter pour constituer le récit même du roman. Donc j'aime jouer avec ces frontières, j'aime pas les cloisons, quelles qu'elles soient.
Est-ce à dire que c'est l'idée qui crée la technicité de l'écriture, ou vous vous lancez des défis, comme par exemple quand vous mettez en scène dans Ketala des objets qui parlent, des objets qui finalement sont les témoins de la vie de la personne décédée? Il y a quand même là un parti pris d'écriture à contrainte, il y a quand même là une espèce de défi que l'on se donne. Un plaisir, la contrainte quelquefois est un plaisir, mais il y a quand même là un travail sur la forme et la qualité de la forme que vous essayez de tirer jusqu'au bout.
C'est pas une contrainte au sens de Pérec avec la disparition. Je ne l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vécu comme un amusement d'une grande fille qui aime encore les dessins animés. J'ai tout simplement voulu faire parler des choses intimes qui appartenaient à une personne décédée. Et ces choses-là, qui sont témoins du quotidien, vont raconter tout le parcours d'une personne. Et ça, cette anthropomorphisation, ça existe dans la littérature française, ça existe dans la littérature ancienne depuis l'Heptaméron, ça existe cette manière de faire parler les choses. C'est Alphonse de Lamartine qui disait « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?» Et moi, j'ai considéré que de tout simplement faire parler les objets, les meubles, c'était une manière de répondre, mais in absentia. Je n'ai pas besoin de dire « oui, les objets ont une âme ». J'ai juste mis les objets en scène. Et puis là, je n'ai plus qu'à faire un travail de petite fille qui s'amuse à faire parler ses poupées. Et c'était un plaisir. Au début, je ne savais même pas que j'allais publier le livre. Je me suis amusée avec ça, à faire des tirades insensées dans mon salon et à mourir de rire toute seule. Et parfois à dire des choses que je trouvais absolument lamentables. Et je me disais, mon Dieu, si quelqu'un publie ça, c'est qu'en France, ils aiment les cinglés. Et je me disais que j'allais en faire une nouvelle. Et puis elle grossissait, parce que j'avais toujours d'autres idées que je voulais rajouter là-dedans. Et un jour, j'ai terminé, et je l'ai gardé longtemps avant de montrer le texte, en me disant, mais on va me prendre pour je ne sais pas qui. Mais pourtant, j'aime cette narration où le théâtre s'invite dans le roman et raconte quand même une longue histoire.
C'est aussi le seul de vos romans qui ait un titre d'origine sénégalaise.
Oui, en serrère. Et pour faire plaisir à ma grand-mère. Vous voyez, le plaisir, il peut se mettre au milieu de beaucoup de choses. Parce que ma grand-mère, un jour, elle m'a dit, mais quand j'écoute, parce qu'on a France Inter au pays et tout le monde me dit, ah, ta petite fille, écoute. Et tu dis tout en français, jamais quelque chose dans notre langue. Et comme ma grand-mère, elle était, parce que maintenant, elle a pris des vacances définitives, mais elle était la personne qui découvrait mes textes avant tout le monde parce que je les lui racontais dans ma langue maternelle. Et puis, comme elle m'a fait cette remarque, un jour, je lui ai dit, tu sais, un jour, je vais faire parler à tous mes lecteurs ta propre langue. Puis, je me suis mise à réfléchir à cette question et je me disais, mais si je mets une phrase entière, Elle sera trop longue pour être retenue par des gens qui ne connaissent pas la langue. Et je me suis dit, bon, un seul mot, un titre. Au moins, si quelqu'un veut acheter ce livre-là, il sera obligé de dire ce mot. Pour ma grand-mère, en serrer. Et le Ketala, c'est une cérémonie où on partage l'héritage de quelqu'un. Et là, les objets vont partager la mémoire. C'est leur meilleur héritage. Et Ketala, en serrer aussi, c'est la rencontre. Ou la confrontation également, c'est polysémique. Or, ces objets sont dans une confrontation parce que chaque bijou, chaque robe, chaque paire de chaussures pense en savoir davantage sur la personne décédée. Donc, Ketala, c'est vraiment aussi pour... c'était aussi une manière de faire une distanciation après l'autobiographie dans Le ventre de l'Atlantique. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour la fille qui fait les témoignages sur l'immigration et la vie en Europe. Donc, je voulais faire œuvre de création pure et dure. Donc, les choses vont parler et faire de la création littéraire. J'ai essayé.
Il y a quand même des thèmes qui reviennent. Je vais rejoindre deux textes, un roman et un récit plus court, où vous, finalement, j'ai l'impression, vous rendez un petit peu hommage à cette grand-mère que vous évoquiez tout à l'heure, une grand-mère-mère, finalement, hein, parce que ce qui est frappant quand on vous lit, c'est qu'on sent à la fois cette extrême modernité, vous êtes très au fait des débats politiques, culturels, du monde qui nous entoure, hein, vous êtes une vraie citoyenne du monde, mais à côté de ça, vous êtes profondément ancrée dans une culture dont certaines des phrases de vos livres font vivre la sagesse. Il y a beaucoup de phrases qui ressemblent à des proverbes. En tout cas, quand je fais lire à mes étudiants, il y en a qui se sont amusés à tous les recopier comme autant de phrases d'un livre de la sagesse, dont on peut penser que tout cela vient du fait que vous avez été élevée par la grand-mère. Autrement dit, par quelqu'un d'une génération qui précède encore celle de votre mère et donc probablement encore plus ancrée dans cette sagesse profonde ou dans cette culture profonde de l'île du Saloum. Donc la question de la vie dans sa fin, dans sa vieillesse, me semble être le sujet dans Inassouvi nos vies, mais aussi... Vous rendez hommage à votre grand-père, semble-t-il, et un peu à Hemingway dans votre texte sur le vieil homme sur la barque. Donc, quel est pour vous le sens de la fin de vie, le sens d'une vie remplie, riche d'expériences, qui se termine? Comment lier justement cette expérience d'une vie avec le commentaire qu'on peut faire sur cette vie ou l'hommage que l'on peut rendre à ceux qui nous ont précédés?
Alors, je coupe en deux dans ma tête, mais d'abord les proverbes.
Ok.
J'ai démystifié les proverbes africains parce que je ne supporte pas la lecture occidentale qui voudrait que chaque métaphore dans un livre africain soit absolument recueillie sous l'arbre à palabres. Voilà. Moi, j'ai fait aussi des études de cinéma et ce que j'aime, c'est l'écriture visuelle. Je passe mon temps à fabriquer des comparaisons insensées. Je m'amuse à fabriquer des maximes. Les pensées de Pascal, ce ne sont que des maximes. Et Pascal n'est pas né à Ouagadougou. Et au jour d'aujourd'hui, quand un occidental trouve une belle métaphore dans son roman, si c'est un français, on ne lui demande pas s'il passe son temps à réactualiser Fénelon ou Marivaux. Donc, je voudrais aussi qu'on accorde aux Africains le bénéfice du doute quant à nos capacités de création. Quand je cite un proverbe de mon village, je dis toujours « comme on dit au village ». Et là, on sait que ce n'est pas de moi. Ou alors, je dis « comme dirait ma grand-mère ». Là, on sait que ce n'est absolument pas de moi. C'est une manière de rendre à César ce qui est à César. À chaque fois qu'il y a une phrase étrange qui semble de la sagesse, de Confucius ou d'un Pateba ou de n'importe qui et que ce n'est pas dit, c'est absolument pur fatou. Donc quand c'est nul, c'est absolument moi. Mais si c'est génial, ce n'est que moi. Et je voudrais revendiquer cela parce qu'il faut rééduquer le regard des lecteurs occidentaux qui pensent que chaque virgule de sagesse dans nos livres vient forcément d'un grand-père. Non. Moi, mes grands-parents, je ne les cache pas et chaque fois que je veux rendre hommage à ce qu'ils m'ont donné, je le dis tellement ouvertement. Je me suis passionnée pour des études de philo. Ça laisse des traces. Au jour d'aujourd'hui, je passe mon temps à relire encore des philosophes que j'aime. Et à l'aune de ma petite vie, parfois une observation m'inspire une phrase et je la note. Et après, quand je fais le roman, ça rentre dedans. Et pour la grand-mère, dans Inasuvinovi, c'était pas une comparaison de la vision de l'âge en Afrique ou en Europe. C'était vraiment une observation des maisons de retraite en Europe. La vie des personnes âgées dans les villes modernes, avec ce grand développement. J'ai l'impression qu'en Occident, plus on se développe, plus on rétrograde au niveau relations humaines. Et la solitude des personnes âgées dans les hospices, elle n'est pas du tout différente de la mienne. En tant que jeune femme des années 2000, je me retrouve dans mon cube en béton à me demander ce qu'il y a derrière l'autre fenêtre en face. Et parfois, on croise des voisins pendant des années, on n'a même pas le temps de prendre un café ensemble. Pourtant, on connaît les visages, mais on ne sait rien de l'autre. Et donc, le personnage de Betty... et je l'ai appelée Betty à cause du dessin animé de Betty Boop avec ses grands yeux comme ça, qui regardent. Et elle s'est amusée à se demander ce qu'il y avait dans l'immeuble en face. Et comme elle n'avait pas les éléments, elle a commencé à échafauder des vies et à construire dans sa tête. Et je pense qu'on est rendu à cette espèce de dialogue presque schizophrène avec nous-mêmes à force de solitude, tout en étant dans une fourmilière humaine. Et maintenant, sur l'âge aussi, je voulais parler de l'âge maintenant. Parce que si j'avais attendu d'avoir 75 ans pour le faire, on va dire que c'est une pauvre fille aigrie. Et donc, j'ai préféré en parler dès maintenant. Par exemple, je ne sais pas pourquoi les couturiers font toujours des robes atroces pour les mamies, alors que moi, ma grand-mère était toujours coquette, elle aimait se maquiller et voulait encore être belle. Et je pense que tant qu'on est dans la vie, on doit la célébrer. Et dans les maisons de retraite, on ne célèbre plus la vie. Même si les gens ont des raisons respectables pour mettre les personnes là-bas, moi je pose une question à l'Occident. Est-ce vraiment le bon choix? Puisque la population, surtout en Europe, la population européenne, elle vieillit de plus en plus. Donc on a construit les banlieues pour cacher les pauvres, on a construit les hospices pour cacher les vieux. Est-ce que l'Europe pourra toujours cacher tout ce qui lui semble laid? C'est une question pour moi qui me semble s'imposer de nos jours, quoi. Or, j'ai beaucoup appris de mes grands-parents et je trouve ça dommage vraiment qu'un jeune occidental, parfois, n'ait même pas l'occasion d'interroger ses grands-parents. Voilà.
Très bien. Et donc, dans Le vieil homme sur la barque, il y a un certain nombre de réflexions. Ça a été un peu noté comme une espèce de récit de voyage, roman petit récit philosophique. On sent que vous y rendez hommage à certains des écrivains favoris, dont Ernest Hemingway, dont vous avez dit que ce dont il parlait dans Le vieil homme et la mer, c'était tout à fait l'histoire de votre grand-père. Comment expliquer cette connexion, justement, entre cet écrivain américain un peu iconoclaste et ce souvenir, ce sentiment que vous essayez d'évoquer de ces pêcheurs du delta du Saloum?
Alors, déjà, moi, toute petite, mon grand-père m'amenait à la pêche. Et les gens lui disaient, mais ce n'est pas une activité pour une fille. Et lui, il disait, pourquoi une fille n'irait-elle pas à la pêche alors qu'une fille mange du poisson? Donc, il n'y avait pas le mot féminisme. Mais dans la démarche elle-même, le sens même de ces propos-là, ça aide à s'assumer en tant que jeune fille et à vivre sa vie sans critères de genre. Voilà, tu aimes le poisson, eh bien, tu viens avec moi à la pêche. Et j'y vais et j'ai appris à pêcher et j'avais mon petit carnet, les filets qu'on jette comme ça. Les Wolofs disent Mbalsani. Et j'avais ça et il m'a appris à ramer. Et parfois je tenais juste le gouvernail pendant qu'il tirait le filet et j'avais l'impression d'être utile. C'est aussi ça l'apprentissage de la dignité, se sentir utile quelque part pour quelqu'un. C'est lui qui m'a donné cette fierté-là quand il me disait « t'es mon matelot ». Je partais avec lui. Mais là, il y a aussi un subterfuge dans cette grande nouvelle. C'est Jean Rouault qui a édité cette nouvelle chez Naïve. C'était une réponse au fameux débat sur l'identité nationale en France. Et moi, je n'aime pas rentrer dans l'arène politique comme ça, comme si j'étais députée. Ça ne m'intéresse pas. J'aime défendre mes idées en passant par la création artistique. C'est ça mon domaine. Et quand tout le monde parlait de l'identité nationale, c'était devenu presque anxiogène pour une auteure noire d'aller faire des conférences, parce que je ne pouvais plus sortir d'une conférence sans subir cette question. Je n'en pouvais plus. Et je trouve que c'est un non-sens, tout simplement, de définir un auteur en fonction de son lieu de naissance ou de son lieu d'habitation. L'auteur par excellence, pour moi, est juste quelqu'un qui habite la terre humaine. Voilà. Moi, j'ai appris autant de Maria Maba que de Simone de Beauvoir, que de Stieg Dagerman qui est suédois, que de Senghor, que de Aimé Césaire. Une de mes auteurs de référence, c'est Marguerite Yourcenar, parce que le style chez elle, c'est purement une merveille. Donc, sans jamais arriver à sa cheville, on peut quand même rêver marcher dans ses traces. Et tous ces gens-là m'ont éduqué à leur façon. Et autre chose, c'est que moi, quand j'ai lu Hemingway, j'étais au lycée. Et je n'étais plus avec ce grand-père avec qui j'allais à la pêche. Donc, il me manquait. Et je lis le vieil homme et la mère. Et j'avais d'un coup l'impression d'avoir une révélation sur quelqu'un que je croyais connaître. Mais en fait, je ne maîtrisais pas tout. Donc, pour moi, un livre, c'est ça. Ça nous dévoile un pan de la nature humaine qu'on ignorait jusque-là. Et du coup, mettre des cloisons ou des étiquettes sur les auteurs, c'est juste insensé. Le taux de mélanine d'Hemingway, je m'en fous. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie des miens, dans le sens où il m'a aidé à comprendre quelque chose de l'existence de mon grand-père, donc de ma vie à moi. Et je voulais parler de ça. La lecture, c'est ça. C'est une promenade dans la nature humaine avec des gens qui sont des éclaireurs, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur lieu de naissance. Voilà. Et c'était ma manière de répondre que c'était juste... une hérésie, quoi, de vouloir ranger un auteur dans un tiroir. Moi, je parle à tous qui se donnent la peine de me lire. Et ce sont les miens. Tous.
Merci. Il y a une deuxième relation que je voudrais établir entre deux textes qui sont fort différents dans leur facture. Je pense au Ventre de l'Atlantique et à ce dernier texte qui vient de sortir, Parce qu'elles savent tout de l'attente, elles connaissent le prix de l'amour, et qui donc traite... Là, je suis entre titres, ce sont celles qui attendent. Elles s'appellent celles qui attendent, et donc on a indiqué sur la pochette de Flammarion, parce qu'elles savent tout de l'attente, elles connaissent le prix de l'amour, qui clôt le livre d'ailleurs. Donc d'un côté, dans le Ventre de l'Atlantique, c'est un récit à la première personne, dont vous avez souvent souligné le caractère un peu autobiographique. Par contre, dans le suivant, c'est une série, c'est un récit à la troisième personne, mais on sent des personnages qui, de temps en temps, prennent le récit en charge parce que l'histoire est racontée de leur point de vue. La thématique qui rassemble ces deux romans, c'est celle de l'immigration. Alors, d'un côté, dans le Ventre de l'Atlantique, ceux qui sont partis et leur vie en France, en l'occurrence. Et par contre, dans ce dernier opus, il s'agit de celles qui restent. Et vous intéressez à six personnages, des mères et belles-mères, Bounia, Aram, les deux belles-filles, Kumba et Daba, et les deux fils partis qui étaient une vie meilleure à Barcelone. En tout cas, c'était leur lieu de destination, Issa et Lamine. Et donc, vous traitez de ces six personnages de façon extrêmement fine. La plupart du roman se passe dans l'île, et on a quelques passages, mais très très rares, qui vont évoquer la vie des deux garçons en Europe, hein, parce qu'ils se déplacent beaucoup. D'abord, pourquoi l'immigration? J'ai envie d'appeler ces deux romans-là une espèce de diptyque, hein, puisque ça parle un petit peu de ce thème-là. Et quand il revient comme ça, on se dit qu'il y a là probablement un cœur dans votre inspiration et dans votre œuvre. Donc, pourquoi ce thème de l'immigration? Est-ce que c'est parce que vous vous considérez comme une immigrée, parce que c'est quelque chose qui concerne tout simplement une réflexion sur le monde actuel, hein, de plus en plus global, où on est tous nomades d'une certaine façon. Et pourquoi ce traitement comme ça sur deux romans pour signifier deux réalités différentes, mais aussi décevantes?
Alors, personnellement, je ne me définis pas comme une immigrée, hein. Ça peut être très étrange quand on est aussi blonde que moi en Alsace. Je ne suis pas du tout une immigrée. J'étais partie mariée. Par définition, quand on se marie, on va faire une vie. Il n'y a pas du tout le projet d'un retour. C'est-à-dire que j'étais prête à acheter une tombe en Alsace. Donc, j'étais partie faire ma vie. Je pouvais encore aller en Afrique voir les miens, mais il y avait un choix pleinement assumé. Je m'en vais par amour avec quelqu'un. On pouvait aller vieillir au Sénégal, en Alsace ou en Australie. Ce n'était pas du tout le projet de l'immigration qui est en général, je vais travailler, économiser un peu et revenir. Donc du coup, la cause, le motif même du départ, ce n'était pas du tout le même. Voilà. Je me sens plus voyageuse qu'immigrée. Voilà. Et maintenant, pourquoi le vent de l'Atlantique, je pensais que j'en avais fini avec le sujet de l'immigration. Sincèrement, je pensais que je n'allais plus écrire là-dessus. Et c'est vrai qu'au fond de moi, je ne voulais même plus parce que je me disais, si j'écris autre chose, on ne va même pas regarder parce qu'on s'attend à ce que je vienne parler seulement de la condition des Noirs en France. Et ma création, ce n'est pas que ça. Si je pars à Shanghai et je vois une belle histoire d'amour, je suis capable d'en faire un roman. Donc, je revendique cette liberté thématique. Pour moi, il faut parler de l'Afrique dans la cohérence d'une réflexion, mais pas d'une manière atavique. Voilà, en tant qu'auteur, je revendique cette liberté-là. Et donc là, celle qui attend s'est imposée, 9 ans. Non, j'ai toujours été nulle en maths. Allez, 7 ans après le ventre de l'Atlantique. Pourquoi ? Parce que j'allais au village et parfois je rencontrais des dames qui me disaient « Mais t'es où ?» Je suis en France, à Strasbourg. « Ah, mais mon fils est parti à Paris. Si jamais tu le vois quand même, il n'est pas venu depuis 3 ans, 4 ans. » Et c'est comme je disais ce matin, c'est comme si je vous disais, ben, vous allez où à New York? Ben, j'ai un cousin en Pennsylvanie, passez-lui le bonjour. Donc au début, ça vous fait sourire, la deuxième fois aussi. Mais la troisième fois, il y a une sorte d'arrêt sur image sur cette dame. Mais c'est quoi la vie d'une femme qui ne sait même pas dans quelle ville du monde se trouve son fils ou son mari ou son fiancé? Quelle est la façon de vivre de ces dames-là qui sont en proie à la solitude, à l'absence et à un imaginaire fantasmé comme ça où on pense que l'autre va revenir parfaitement, comment on peut dire ? Oui, amélioré dans tous les sens du terme, beau, riche, élégant et amoureux, et voilà. Et c'est une utopie qu'elles nourrissent et c'est cet espoir-là qui les garde en vie. Et pour moi, c'était tragique de penser à ça. Et après, le sujet ne m'a plus jamais quitté. J'ai commencé à réfléchir à ça, aux histoires d'amour, aux déceptions, aux histoires de famille, parce que les hommes-là qui partent, on ne peut pas mettre leur cœur en jachère. Ce sont des gens qui sont en âge d'aimer, qui font des rencontres, qui ne sont pas imperméables aux rencontres qu'ils vont faire. Donc, toutes ces femmes qui attendent ont vraiment toutes les chances du monde aussi d'être déçues. Il y a d'agréables surprises, mais il y a plus de déceptions. Les gens qu'ils retrouvent ne sont pas forcément ceux qui étaient partis, parce que l'ailleurs nous change. Et ce livre-là s'est imposé comme ça. La deuxième raison, c'était aussi un angle de regard sur l'immigration. Parce qu'on analyse souvent les phénomènes du monde depuis les grandes puissances. Donc, forcément, on parle de l'immigration. Mais l'immigration, vue du côté des pauvres, c'est l'émigration. C'est l'arrachement aux êtres chers. C'est la séparation. C'est la tristesse. Et je voulais parler de ces humbles gens qui sont derrière et dont personne ne parle parce que les hommes qui partent, parfois vous avez les caméras du monde entier pour filmer leur tragédie et en parler. Mais les femmes qui restent derrière ou les parents qui attendent, personne ne leur donne la parole pour leur demander comment ils vivent tout cela. Mais moi, j'ai voulu m'intéresser aux silencieux.
C'est vrai que les personnages que vous dépeignez sont très fouillés. On sent une profondeur psychologique. On les voit vivre sous nos yeux. Je pense notamment aux deux mamans, aux belles-mères et aux jeunes femmes qui ont été abandonnées par ceux qui sont partis. Mais vous tenez un discours quand même assez sévère sur cette société africaine. Notamment, on voit apparaître, par exemple, le poids social, la coercition sociale, on a envie de dire. Les gens sont obligés, finalement, de faire des choix contre leur gré, quelquefois. La question des castes aussi. Est-ce qu'on fait partie d'une catégorie noble, pas noble? Est-ce qu'on fait partie des familles agréées de l'île ou pas? Vous dénoncez quand même beaucoup tout le poids de cette société qui, elle aussi, contribue à ce drame de l'émigration.
Oh, ce n'est pas de gaieté de cœur quand on dénonce. Mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et j'ai de grands maîtres pour cela. Sembène Ousmane disait que aimer l'Afrique, c'est l'aimer suffisamment pour lui reprocher cet art parce qu'on espère d'elle le meilleur. Et j'ai beaucoup de respect pour Sembène. Et oui, c'est chez moi, mais le fait d'avoir vécu à l'étranger me permet d'avoir un regard plus distancié. Donc il y a des choses qui peut-être ne me choquaient pas de prime abord parce que je n'avais pas d'éléments de comparaison. Maintenant, je les ai, les éléments de comparaison. Il y a des choses qui me semblent totalement inadmissibles, que je rejetais même quand j'y étais, mais il y a des choses que j'ai encore plus remarquées maintenant. Quand je critique des choses en Afrique, souvent, il y a des gens qui me disent « Oui, mais t'es occidentalisé. » Et moi, je rétorque toujours, vous savez, la modernité, ce n'est pas une plante rare qui pousse seulement en Europe. Donc, ce changement de regard et d'envie de société, cette évolution dans les mœurs et dans nos désirs, avec ou sans la colonisation, nous l'aurions quand même vécu. Cette évolution sociologique est tout simplement irréversible et inévitable. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que l'Afrique doit accepter de ne pas... elle doit arrêter d'être trop chatueuse. Et on peut aimer l'Afrique et lui dire ses quatre vérités, quoi. C'est même une grande preuve d'amour. Et c'est comme quand je critique des choses en France. Je dis, je ne suis pas contre la France. Enfin, je suis tout contre. Oui, c'est comme quelqu'un qui regarderait un visage d'un amoureux suffisamment proche pour dire, ah mon chéri, un petit bouton ici, il faut trouver une solution. Ce n'est pas de la haine, c'est de la tendresse. Il faut vraiment s'intéresser à une société pour pouvoir regarder ses travers, pour les connaître. Un étranger qui reste en dehors et totalement en dehors ne verra jamais l'état de la France. Moi, je la vis, la France. Je la fouille, la France. Et je l'interroge. Parce que je sais qu'elle a changé des choses en moi, mais moi, je ne suis pas sa pâte à modeler. J'ai aussi ma conscience humaine et il y a des choses que j'attends d'elle et que j'exige d'elle. Parce que quand elle se dit patrie des droits de l'homme, ça lui donne un devoir que nul autre pays n'a. Parce que c'est lui qui a colporté ces idées-là. Enfin, ce pays-là doit les respecter. Et donc, je lui rappelle de temps en temps, « Ah bon, chère France, êtes-vous sûre d'avoir respecté les leçons que vous distribuez dans le monde entier ?» Et c'est ça qui fait que parfois, je vous donne des coups de griffe pour mieux l'aimer encore. Parce que je veux que les choses s'améliorent. Et au Sénégal, quand je critique des choses, c'est pareil. Voilà. Là, j'étais au FESMAN, au festival là-bas. On a fait des rencontres. Il y a des gens qui me reprochaient d'avoir critiqué la polygamie. Alors aujourd'hui, je récidive. La polygamie, pour moi, c'est une maladie que je n'attraperai jamais. Donc voilà. Parce que je trouve que quand on se plaint de carences, il faut développer tout ce qui permet d'augmenter les moyens, pas tout ce qui réduit les moyens. Or, je ne parle pas même du socle de cette tradition. Bien sûr que c'est une tradition. Si un homme est suffisamment riche pour épouser quatre femmes, les loger décemment, éduquer ses enfants, les soigner comme il faut, les protéger, si ces dames sont d'accord, je n'ai rien à dire, moi. C'est parfait. Mais si une dame dit qu'elle n'est pas d'accord pour ça, j'aimerais bien qu'on entende sa liberté de femme et qu'on ne lui impose pas. Et maintenant, si un homme qui a déjà un problème pour acheter un sac de riz, il a des problèmes pour subvenir aux besoins de sa première famille, c'est-à-dire sa première épouse et ses enfants. Si déjà ces personnes-là vivent dans de très mauvaises conditions, ce même homme, s'il a encore le courage d'aller chercher une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième épouse, je trouve que c'est de l'inconscience. Et je trouve que ce comportement-là ne fait que nous enfoncer dans le sous-développement, et il faut le dire. Aimer les enfants, ce n'est pas en faire une équipe de football et des remplaçants. Aimer les enfants, c'est assurer le nécessaire vital aux enfants qu'on a pris la responsabilité de mettre au monde, pas d'en faire des misérables de plus. Voilà, c'est ce que je défends dans mes livres. Mais parfois, les gens, ils aiment bien voir une Fatou, une blanchie de France qui raconte n'importe quoi. J'argumente quand je critique des choses. Voilà.
Vous êtes effectivement pas du tout tendre avec la question de la polygamie, polyandrie d'ailleurs aussi, hein, puisque on se retrouve avec un personnage de jeune femme occidentale, donc qui revient avec un des personnages. et
celle qui adore l'Afrique,
celle qui justement a ce regard peut-être bienveillant sur l'idée de polygamie et qui se considère comme peut-être une épouse de polygame et l'accepterait. Et donc je vais lire, je vais me permettre de lire un passage ici. C'est la jeune femme qui se dit, la jeune femme occidentale qui se dit, la polygamie n'est pas si terrible que ça. Et ensuite, on dit, seule une repue qui s'était payée son étalon comme son dernier sac Prada, le tenait fermement par la bride, pouvait dégoiser de pareilles sornettes. Que savait-elle des rivalités transmises de génération en génération, capables d'hypothéquer l'avenir de toute une descendance? Que savait-elle des nuits d'assaise, de l'angoisse et de l'attente, et de la frustration? Elle qui disposait son gros nounours 11 mois sur 12 et le cédait comme on offre une location saisonnière. Et ça continue comme ça. Donc, vous êtes aussi contre cette vision un peu folklorisante, finalement, de l'Afrique, où, disons, qu'on doit pouvoir s'offrir une capacité de choisir.
Je suis contre cet amour de la mauvaise conscience occidentale vis-à-vis de l'Afrique. Pardonnez-moi. Il y a des gens qui se croient absolument obligés d'être condescendants, ce qui est un signe ultime de manque de respect vis-à-vis des Africains. En fait, ils nous regardent du haut du strapontin de leur mépris. Donc, ils nous regardent comme des êtres tellement incapables d'amélioration que toutes nos conneries semblent acceptables. Non, mais c'est vrai. Après, ils viennent. Oh, mais j'aime beaucoup la culture africaine, je suis tolérante. Non, mais ne me tolérez pas, respectez-moi. Je tolère le chien de la voisine quand il aboie et qu'il gâche mes nuits. Là, je tolère. Voilà. Mais l'autre humain en face, je n'ai pas à tolérer. Je prends acte de sa présence au monde, exactement comme moi. Et même si je ne comprends pas sa culture, qui n'est pas forcément plus débile que la mienne, je respecte quand même. Donc c'est du respect que les Africains demandent aux Européens. Pas de génuflexion à cause de leur culpabilité historique. Il faut qu'ils assument leur culpabilité historique. Ce n'est pas notre problème. Mais il faut qu'ils rentrent dans un dialogue équilibré. Cette femme-là, j'en ai rencontré, hein, ce n'est pas du tout une invention. J'ai rencontré des femmes qui acceptent effectivement la polygamie, des femmes des occidentales. Voilà. Et la fille, imaginez donc, l'immigré, il reste 11 mois sur 12 en Europe. Et il part en Afrique seulement pour un mois d'été. Et il va jouer le petit pacha sous les tropiques. Évidemment, quand il amène sa blonde aux yeux verts, comme la chanson de Linda Lemay, les souliers verts. Quand il amène sa blonde, qui va cuisiner? La petite dame africaine. C'est elle qui va chercher l'eau au puits. C'est elle qui va faire le linge. C'est elle qui va faire la cuisine. Pendant que madame, elle visite le côté pittoresque du village. Et puis même le cimetière est plein d'attrait pour elle. Donc il faut qu'elle photographie tout. Et l'Afrique tient dans son téléobjectif. Cette Afrique-là des tours opérateurs, ce n'est pas notre réalité. Et donc, quand elle accepte la polygamie, elle est en train de saboter le travail de toutes les associations féminines en Afrique qui luttent pour un minimum de droits pour les femmes. Elle, l'Européenne, qui a la chance d'avoir fait des études, de gagner sa vie, d'être dans une société où elle a beaucoup plus de possibilités, elle revient, elle vient en Afrique et puis elle dit la polygamie, c'est pas si terrible que ça. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle a son mari 11 mois sur 12. Donc elle profite comme si elle était dans une monogamie finalement. Et c'est le manque de solidarité aussi des femmes que je voulais souligner. Tant qu'il y aura quelque part dans le monde des femmes qui sont victimes de violences ou qui sont sous tutelle et qui ne sont pas libres, ça veut dire que l'ensemble des femmes du monde ne sont pas libres. Et donc tant qu'il y aura des Européennes pour accepter des choses en Afrique, ça veut dire aussi que tout ce qu'on ne peut pas leur faire subir ici, on va le faire subir à d'autres femmes là-bas. Et je voulais une solidarité sororale, voilà, entre des sœurs européennes, américaines, africaines. Allez, l'international féministe. Donc voilà, et je voulais souligner ce... Comment on appelle ça? Vous savez, il y a un militantisme qui fait que même nous, Africains, parfois, on n'a pas le droit de critiquer des choses de chez nous. Parfois, quand je critique ces choses-là, j'ai eu des Européennes qui me disaient « Oui, mais tu ne reconnais pas ta propre culture. » Je dis « Attendez, ma sœur, moi, dans ma culture, je garde tout ce que je trouve que ça vaut la peine. Mais les archaïsmes qui vont me mettre en retard, je les mets à la poubelle, mais sans état d'âme. Alors maintenant, si elle est dans la mode des carottes bio, et puis elle est dans la mode de l'authentique culturel, et elle va en Afrique pour trouver tout ce qu'elle détesterait en Europe, je ne suis pas d'accord. Parce que ce sont ces mêmes femmes-là qui auraient une dépression nerveuse si son mari avait le malheur d'embrasser la secrétaire. Voilà. Donc ce qu'elle refuse ici, eh bien, nous aussi on refuse ça là-bas.
En fait, je comprends bien que vous êtes contre toute vision muséographique esthétisante de l'Afrique, et on vous comprend très bien. Et par ailleurs, on l'a entendu, vous êtes quelqu'un de très engagé, on l'entend sur les tribunes, quand vous donnez des entrevues, etc., mais on le lit aussi dans vos textes. Et par exemple, je voudrais peut-être terminer par ceci, quand vous évoquez, et je pense que c'est quelque chose d'important, les rapports Nord-Sud. Je vais me permettre encore de faire une petite lecture. Vous dites ceci. L'Occident réorganise son emprise impérialiste qui ne s'est jamais desserrée sur l'Afrique. Immigration choisie pour la guerre. Pauvres tirailleurs choisis pour la mort. Immigration choisie pour l'industrialisation. Seules les mines et les usines se souviennent encore des étrangers venus porter l'Europe sur leurs échines pour la sortir de sa misère d'après-guerre. Immigration choisie, aujourd'hui, pour les besoins d'une main-d'œuvre compétente et peu coûteuse, d'où ce tri sélectif parmi les nécessiteux, privés d'arriver avec la qualification requise ou de déguerpir, le rejet est criant, une fois le gâteau constitué, les humbles, les parentables, ceux qui n'ont que leur faim à faire valoir, sont sommés de quitter la table occidentale. Comment résoudre, dans votre dernier livre, donc dans celles qui attendent, on a une fin heureuse, hein, quand même, un peu hollywoodienne, tous les films se terminent, je rassure les lecteurs, je ne veux pas vous dire la fin, mais ça se termine bien. Ce parcours se termine bien, un peu de façon peut-être utopique, mais tout de même, qu'est-ce... Non ?
Il y a deux fins, deux fins, je laisse aux lecteurs deux fins. Les deux immigrés, je ne vous dis pas toute la fin, mais il y en a un qui revient, il y en a un qui repart. C'était... Et c'est à vous de découvrir pourquoi. Mais il y a deux fins. Pour moi, le monde n'est jamais ni noir ni blanc. Il y a toujours des situations mitigées. L'être humain est trop complexe pour se contenter d'évidence. Et donc, il y a une nuance. L'immigration, tout n'est pas mauvais et tout n'est pas formidable. Dans la manière de retourner en Afrique aussi, ce n'est pas toujours formidable. Mais tout n'est pas à jeter non plus. J'ai vu des jeunes qui partent en Afrique et qui s'en sortent très bien. Et moi, je ne crois pas à l'afro-pessimisme. Hein. Je suis une optimiste. Et de toute façon, même quand je n'ai aucune raison de l'être, je lutte pour le rester. Donc, je crois à une Afrique qui va s'en sortir parce que moi-même, j'ai pu m'en sortir. Et je n'étais pas mieux lotie qu'une autre. Donc, je crois au mouvement vers l'avant. Mais pour cela, il faut que nous, Africains, que nous puissions nous réapproprier notre destin. Moi, j'en ai ras-le-bol de l'aide humanitaire. Je n'en peux plus de l'aide humanitaire. Parce que l'aide humanitaire ne nous aide pas. Elle nous écrase. Et en fait, celui qui vous donne vous domine. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Et celui qui vous donne aujourd'hui, il va avoir de la compassion. Demain, il vous donne, il pense à sa charité chrétienne. Après-demain, s'il vous donne, il vous méprise royalement parce qu'il pense à sa supériorité. Et donc, il faudrait que l'Afrique puisse se redresser. Moi, je rêve d'un partenariat nord-sud. Je pense que dans le monde actuel, on est tous embarqués dans la même galère. Pour la simple et bonne raison. Si l'Occident ne fait rien pour aider le tiers-monde, eh bien, nous, tant que vous aurez assez à manger et que nous, on manquera de pain, on va vous submerger. Parce que c'est une nécessité humaine et vitale. Les Irlandais, quand ils ont eu la famine et les pommes de terre pourries, ils sont partis en Amérique. C'est une nécessité humaine d'aller trouver la survie là où elle est possible. Donc si l'Europe ou l'Amérique veut vivre en paix et ne pas avoir tous les pauvres qui vont débarquer, il faut qu'ils se mettent dans un partage des richesses du monde d'une manière beaucoup plus juste, plus équitable et plus humaine. Voilà, et ça c'est une exigence de l'histoire. Sinon on va tous couler. Voilà. Maintenant pour les Africains, moi j'en peux plus aussi du râle mourir permanent qui voudrait tout justifier avec la colonisation et l'esclavage. Bien sûr qu'il y a encore des séquelles de tout ça, mais ça me sert à quoi moi aujourd'hui de trouver mon coupable, surtout si mon coupable ne me sert à rien et qu'il me domine encore comme il me dominait hier. Donc la véritable liberté, c'est à un moment donné se pacifier intérieurement. Pour se dire, les blancs que je rencontre aujourd'hui ne peuvent pas me mettre les chaînes pour l'esclavage. Je ne leur permets pas. et je connais mes droits et j'exige le respect. Et l'autonomie dans notre tête, après avoir pacifié tout ça, c'est de cesser de croire que notre destin, c'est quelqu'un d'autre qui va venir changer ça. Voilà, les Européens ont leur chat à fouetter, ils s'en occupent. Et nous, il faut qu'on creuse nos puits et qu'on sème notre mil pour récolter pour nos enfants.
Merci Fatou.
Je parle comme une mamie, c'est ça.
Et pour finir sur une dernière petite note, on a vu que Fatou Diome, le mauve, c'est sa couleur. Hein, on la retrouve partout, on la retrouve autour de son cou.
Diome, parce que pour le coup, c'est vous qui avez l'accent là.
Et donc, comment interpréter ce mauve?
Le mauve.
Oui.
Je vais vous réciter quelque chose à la fin. Alors, ceux qui étaient venus hier ici, je suis désolée pour vous, vous allez avoir bis repetita. Mais je vais quand même vous réciter quelque chose. C'est toujours ma manière de finir mes rencontres parce que ça répond pour moi, enfin, c'est un peu ma profession de foi. Si mes éditeurs me le permettaient, j'aurais mis ça à la fin de chaque livre. Ça part pour moi de l'étranger, de cette couleur évidemment qui signifie quelque chose pour moi, du voyage et de la rencontre avec l'autre. Mais juste pour vous dire aussi, en latitude de navigation, l'Afrique se trouve en latitude rouge et l'Europe en latitude bleue. Si vous mélangez les deux, vous avez du mauve. C'est absolument moi. Le mauve, c'est aussi la couleur des évêques. Et le mauve, c'est la couleur que les veuves mettaient après le noir, avant de passer aux autres couleurs. Elles mettaient du mauve. Pour moi, c'est une couleur qui symbolise la sortie des ténèbres pour marcher vers la lumière. Je trouve que j'ai détesté mes 20 ans, que mon enfance, je ne la souhaite à personne. Et j'espère que le reste de ma vie là, je vais aller de plus en plus vers une espèce de douceur de vivre du genre tarte aux pommes avec une boule de glace vanille. Une espèce de luminosité, de vivre quoi. J'ai envie de vivre. Et pour moi, c'est ça. C'est aller progressivement vers la lumière, comme les veuves qui vont oser mettre les autres couleurs après. Après avoir bien pleuré. Le mauve, c'est aussi l'incandescence des révolutionnaires qui agitent leur drapeau rouge. Mais les conservateurs, ils ont un drapeau bleu. Si vous mettez les deux ensemble, vous avez du mauve. Pourquoi je défends le mauve? Parce que je trouve que dans toutes les cultures, il y a des choses à révolutionner et des choses à conserver. Donc, dans la même personne, on est en même temps conservateur et révolutionnaire. Donc, et j'en ai plein d'autres comme ça. Et parce que le reste est dans un livre qui s'appelle Mauve, eh bien je me défends de vous dire le reste.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Fatou qui est toujours très généreuse et toujours intéressante à écouter. Maintenant, c'est le temps pour le public, s'il le souhaite, de poser des questions. Et parce que c'est enregistré, je vous demande s'il vous plaît, si vous avez une question à poser, vous avez des micros ici dans l'allée, de parler dans le micro, sinon on ne pourra pas vous entendre à l'enregistrement. Donc voilà, vous en avez un ici en arrière. Oui ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Avant ce matin, Radio-Canada, je ne vous connaissais pas. Alors, c'est pour ça que je suis venu ce
J'étais
soir.
J'étais dans le noir.
Non, dans le mauve, parce que j'aime bien l'aurore. C'est ce qui fait que même sans l'aurore, on est capable de croire que le jour suivant viendra malgré tout. Mais ceci dit, ce qui m'a fait venir ici, ça a été surtout votre histoire de crapaud. Évidemment, je me sens interpellé parce que je suis de ce hasard génétique qui fait que je peux à la fois être un prince charmant ou un crapaud. Mais j'ai pensé, mon intervention sera pas trop longue, c'est pas à moi à parler, mais à vous là, mais je me disais, elle a dû faire quelque chose. Elle a certainement dû faire quelque chose parce que j'ai été voir sur Internet de quoi vous aviez l'air. Puis je me suis dit, puis je vous ai entendu aussi sur YouTube. Puis je me suis dit, mais... Puis après ça, je suis passé à une autre étape. Puis je me suis dit, mais vous savez, dans la vie, parce que je suis plus vieux que vous aussi, et puis je me suis dit dans la vie, des fois, un prince charmant peut rencontrer une princesse qui se révèle être une sorcière, et on s'aperçoit plus tard, 20 ans plus tard, que ça a été une maudite bonne chose d'avoir rencontré la sorcière, parce qu'on est devenu tel qu'on était. Alors ma question, dans quelques années, dans 20 ans, lorsque vous rencontrerez encore le public et que peut-être on parlera, vous parlerez encore du crapaud, est-ce que peut-être vous lui donnerez quand même le crédit d'avoir fait en sorte que peut-être cet abandon vous ait permis de vous révéler à l'univers? Voilà.
Alors, là, ça sent la résilience de Boris Cyrulnik. Or, je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'il ne suffit pas de mettre du sucre dans le sel pour changer le goût du sel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des parcours magnifiques dans leur vie et qui n'ont pas eu besoin de se casser la figure avant. Je pense qu'il est possible dans la vie de réussir sans souffrir le martyre. Donc j'aurais aimé peut-être continuer à écrire sans avoir passé 6 ans à nettoyer en Alsace et à laver les toilettes des autres pour être payé une misère juste parce que je n'avais pas le choix. Donc je n'y vois aucun héroïsme. Je trouve que c'est un accident de la vie. C'est un hasard de ma vie, je l'accepte. C'est comme ça. Mais je ne trouve pas que ce soit formidable d'être passé par là, d'autant plus que j'étais déjà à l'université de Dakar, moi, avant d'aller en France. Donc, j'écrivais déjà. Et je faisais des études de lettres pour être professeur de français là-bas. Donc, vous voyez, quand je suis arrivée en France, on m'a recyclé, hein, comme le papier. C'est-à-dire, j'avais déjà un DEUG au Sénégal, on m'a demandé de repasser encore la dernière année du DEUG pour valider des acquis. Ils m'ont fait perdre du temps et on m'a brisé le cœur là-bas. Alors, je ne revendiquerai pas ça en disant que c'était une merveille dans ma carrière. Non, c'était une tragédie. Pas grecque, un peu sénégalaise. Je l'assume comme elle est. Je n'en suis pas aigrie du tout. Il m'arrive même de me dire que, oh, le pauvre chéri, quand même les 2 premières années ici, j'étais une vraie princesse. C'était pas un mari que j'avais, mais un garde du corps. Il m'a amené même en voiture acheter du pain, mon Dieu. Donc, bon... Et il n'est même pas là aujourd'hui pour que je puisse lui offrir un week-end à Venise. Mais il n'est pas très poétique, le bonhomme, tant pis pour lui. Je n'ai pas de regrets avec ça, je n'ai pas d'amertume particulière avec ça. Et je le vis sereinement, mais vraiment. C'est juste la vie, advienne que pourra. La question, c'est chaque matin de se dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mériter d'être là? Voilà, ça fait des années que j'essaye. Il aura été gentil pendant 2 ans, il était adorable. Il faisait des vrais croissants le dimanche matin. Je m'en souviens. Il faut rendre aux gens le mérite qu'ils ont. Cet homme-là, c'est juste un être humain face à son existence et une mère absolument raciste. Donc peut-être que si j'ai gardé une petite amertume, ouais, peut-être que ça ne doit pas être mal de rencontrer un orphelin, ça évite la belle-mère. Pardon. Parfois, je le pense, hein, mais voilà. C'est les pensées magiques des enfants. Pas d'amertume. Voilà.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour ces moments que vous partagez avec nous.
Merci.
J'ai 2 questions. Une question qui peut-être rejoint davantage la technicalité, c'est par rapport au titre. J'aimerais savoir, au niveau du choix de vos titres, comment est-ce que vous procédez? Puisque, en fait, par expérience, ça a été très difficile de faire un choix. Après, en fait, j'ai écrit un roman. Ça m'a pris à peu près... Je crois que j'ai eu 100 de titres pour m'en tenir finalement à un, évidemment.
Vous êtes courageuse.
Donc, voilà, j'ai cette question-là. Je sais que vous avez quand même, comme le roman Le Ventre de l'Atlantique, qui, à première vue, semblait être davantage une métaphore. Celui dont on vient de parler, en fait, celle qui attend, qui semble complètement différente. Donc, j'ai une question. C'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à la notion de rejet dont vous avez parlé, suite, en fait, à votre vécu. Je me demandais si, justement, le fait d'avoir connu le rejet vous a amené, si en fait c'est un peu la source de votre inspiration, parce que quand je vous écoute parler, je vois effectivement quelqu'un qui me semble marginal, hein, dans sa façon de penser, dans sa façon de voir les choses. Et puis voilà, donc je m'intéresse beaucoup à cette notion-là, la notion du rejet.
D'accord.
Merci.
D'abord, bravo pour la patience que vous avez de trouver une centaine de titres avant d'en choisir un. Vous êtes vraiment une sacrée travailleuse. Et je vous tire mon chapeau parce que moi, je n'ai pas du tout ce courage-là. Je trouve que je suis peut-être plus feignante, donc. Non, moi, un titre, il s'impose, Le ventre de l'Atlantique. C'est juste parce que quand j'étais petite, quand on allait chercher des fruits de mer avec ma grand-mère, c'est une île, quand la marée montait, on voyait la mousse. Et au début, je disais, mais la mer, elle va nous avaler. Et ma grand-mère, elle disait, mais elle ne peut pas nous avaler, nous sommes 16 enfants. Nous sommes déjà dans la mer, puisqu'on habite une île, on n'avale pas ses enfants. La mer, elle nous nourrit. Les insulaires pensent toujours que la mer, c'est une mer nourricière. Et moi, je pensais toujours aux gens qu'on perdait du village. C'est aussi une ogresse. Elle nous nourrit, certes, mais elle se nourrit de nous parfois. Et ça m'a toujours travaillé, cette ambivalence de la mer. Et quand j'ai voulu écrire le roman là sur l'immigration, j'ai pensé aux hommes qui essayaient de traverser le détroit de Gibraltar et qui mouraient en mer. Ils sont avalés par la mer, ils dorment dans le ventre de la mer. Mais la deuxième image, c'était aussi quand en Afrique, on veut demander à quelqu'un de se taire, de garder un secret. On dit chez nous, le ventre doit être une tombe. Donc on enfuit tout dans le ventre. Et encore pour les femmes, la promesse de vie, c'est encore le ventre. D'où le ventre de l'Atlantique, cet immense océan qui nourrit, qui donne la vie, qui avale ses enfants aussi. Voilà, c'est le titre est venu comme ça, ça s'est imposé. C'était le tout premier et le seul. Donc, et je l'ai gardé jusqu'au bout. Je me souviens quand j'ai présenté la première fois à Anne Carrière, elle m'avait dit, mais le ventre de l'Atlantique, mais c'est quoi savoir, qu'est-ce que ça va, le ventre et l'Atlantique? Et j'ai dit, mais la poésie, madame, la poésie. Et je ne la connaissais pas. Et j'avais peur qu'elle rejette le texte. Et je lui ai dit, mais lisez d'abord, vous verrez après. Et j'ai cette façon peut-être sournoise, parfois, quand je prends un titre, j'en fais un leitmotiv du livre. Et parce que j'essaie comme ça pour qu'on ne puisse pas changer le titre. Parce que quand c'est un leitmotiv, ça justifie le livre. Enlever le titre, c'est presque mutiler le livre, quoi. Donc, je m'amuse à faire ça pour que ce soit impossible à changer. Dans Inna Souvinovi, j'ai ponctué tous les chapitres avec une conclusion de tel sujet qui était Inna Souvi. Et Inna Souvinovi, j'ai fait ça pour la rime visuelle et sonore. Pour les profs de français, elles vont dire, ben, l'homéotelet. Ça s'appelle comme ça, comme figure de style. Et c'était la rime visuelle et sonore en même temps, dans le même titre. Et c'est sorti tout de suite. La seule discussion qu'il y avait, c'était pourquoi ne pas mettre un titre plus simple, Novice Inna Souvi. Et j'ai dit non. Quand je dis couper son nos doigts, ça veut dire que tous nos doigts sont coupés. Mais quand je dis nos doigts coupés, ça peut être deux doigts ou trois doigts. Donc quand je dis Inna Souvi Novice, ça veut dire que toutes nos vies, quelles qu'elles soient, elles ont une part d'Inna Souvi parce qu'il nous manque toujours quelqu'un ou quelque chose dans la vie. Voilà. Donc ce travail que vous faites, moi j'attends qu'il s'invite. Maintenant, celles qui attendent, par exemple, mon éditeur a dû couper au pays. Parce que j'avais mis celles qui attendent, celles qui restent, celles qui attendent au pays, celles qui restent au pays. Voilà, c'était déjà la fourchette de titres et seulement ça. Et ils ont dit, mais déjà avec le contenu philosophique que je donnais aussi dans le texte, je fais allusion à Ulysse et toutes ces Pénélope qui attendent, c'était finalement inutile de préciser au pays, quoi. Et j'ai dit ok, voilà. Mais la racine du titre était déjà là. Maintenant, pour le rejet. Je n'aime pas la tête de Calimero. Je refuse toute position de victime. Vous savez, c'est comment on peut dire, et c'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Chaque fois qu'on fait l'oiseau blessé, la personne qui soigne en profite toujours. Et vous savez, dans la vie, il y a un auteur slave que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui disait, dans la vie, il n'y a que le fromage qu'on met devant la souricière qui est gratuit. Donc souvent, toutes les personnes qui essaient de vous réparer, ce sont elles qui vous démolissent. Donc je me promène avec mes blessures, je les connais. Mais je n'en ferai pas une faille abyssale dans laquelle on va s'infiltrer pour me détruire davantage. il y a des blessures avec lesquelles on doit vivre toute une vie et que plus jamais personne ne pourra guérir. Voilà. Moi, je n'ai pas vécu avec mes parents. Je les ai vus, je sais qui ils sont. Je n'ai pas chanté une berceuse avec ma mère. Mon père m'a jamais dit « Oh, ma fille, t'es jolie avec ta robe. » Finalement, je m'en fous. D'autres me l'ont dit. Et la consolation, c'est juste ça. Vais-je mériter encore que d'autres me le disent? Si c'est possible, tant pis pour papa. Voilà. Et les psys ne prendront pas mon argent. Parce qu'avec ma folie, je fais des livres. Et c'est complètement assumé. Mais le blues comme la joie. Voilà. Le rejet, parfois, je peux y penser. Mais vous savez quoi? Je ne m'interdis pas non plus de pleurer. Parce que je pense qu'il faut assumer ses failles pour reconnaître ses vraies forces. Donc si j'ai un coup de blues, je me prends un litre d'eau, un rouleau de sopalin, je mets la musique la plus triste de ma maison, je m'installe. C'est un vrai boulot, je vous dis. Et je pleure un bon coup. Et après, je vais à la glace et je me regarde et puis je dis, mais t'es moche quand tu déprimes. Et merci. Là, je me remaquille et je mets de la musique et je chante. Voilà. Ainsi va la vie.
D'autres questions?
Allez-y.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, ma question c'était par rapport à votre livre, Le ventre de l'Atlantique. Mm. C'était par rapport à votre frère, parce que vous parliez de votre frère et de votre difficulté à lui expliquer au fait la non-nécessité de forcément venir en Europe. Mm. Moi-même j'ai été confrontée à ce genre de problème. Et je voulais savoir maintenant, après le livre que vous avez fait, qu'est-ce que ça a donné? Comment il perçoit cela maintenant? Est-ce que ça a évolué ou il est toujours un peu sur cette... Je sais que les personnes qui sont en Afrique sont souvent très fascinées par l'Occident. Ils se donnent de noms de footballeurs, etc. Donc, je voulais savoir s'il y a eu quelque chose par rapport à ça. S'il y a une petite évolution par rapport à ça.
Alors, aucun de mes frères ne sera dans les charters de M. Sarkozy. C'est une volonté viscérale. Je suis prête à vendre mon dernier soutien-gorge pour ça. Si. C'est-à-dire, dès que j'ai gagné de l'argent, j'ai pris comme une tarte aux pommes et j'ai divisé et j'ai partagé. Et j'ai donné à chacun de quoi investir et développer quelque chose pour être autonome. Et vous savez quoi? Ils n'ont même pas le temps ni l'envie de venir. L'année dernière, j'ai proposé à mon frère de venir avec moi pour des vacances en France. Il m'a dit, j'ai pas le temps. Je dois m'occuper du magasin. Je dois encore chercher des marchandises. Et j'étais déçue parce que je ne pouvais pas l'inviter chez moi, mais j'étais en même temps ravie. Enfin, il était suffisamment bien chez lui pour pas avoir envie de partir sur un coup de tête. Et vous savez quoi? Celui qui a un puits dans sa maison ne convoite pas la source du voisin. Donc voilà, si les gens ont de quoi vivre dignement, ils n'ont pas envie de bouger de chez eux, c'est quand même beaucoup plus confortable de s'en sortir et d'avoir toute sa famille autour de soi. Je pense que nous qui sommes venus, nous qui avons fait le pas, nous devons aider peut-être les nôtres autrement, c'est-à-dire les sensibiliser, mais puisque de toute façon on doit partager, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça de toute manière, c'est du vrai racket. Bon, autant utiliser ce racket de manière intelligente, c'est-à-dire au lieu de vous payer 3 sacs de riz, 4 ordonnances chaque année, je prends une grosse somme d'argent et je dis à la personne, maintenant tu investis et tu t'en sors. Et si tu ne t'en sors pas, tant pis pour toi, parce que moi, je ne suis pas ton esclave. Hein. Je ne vais pas passer ma vie à travailler pour financer. Donc, tu investis et tu travailles et tu gagnes ta vie et tu es indépendant. Pour moi, aider quelqu'un, c'est l'aider vraiment à ne plus avoir besoin de nous. Voilà, une véritable autonomie. Donc, c'est ma petite démarche à moi pour des amis que j'ai voulu aider, pour des gens de ma famille, pour des connaissances. Voilà, c'est ce que j'ai appliqué. Et depuis, je me sens de plus en plus sereine. Je n'aurai jamais une Mercedes, mais ce n'est pas grave, j'ai des nuits tranquilles maintenant.
On a le temps pour une toute dernière question, éventuellement. Merci.
Oui. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis agréablement surprise de faire votre connaissance. C'est la première fois que je vous rencontre. C'est sûr que moi, je suis sénégalaise aussi. J'ai eu l'opportunité de lire des articles parlant de vous, mais je suis vraiment agréablement surprise. par vos idées puis les thèmes que vous abordez. La question que j'avais, quand vous avez parlé tout à l'heure de la responsabilité de l'Occident dans le développement de l'Afrique en général, vous dites que c'est dans leur intérêt à eux de concevoir des relations plus équitables pour aider au développement de l'Afrique, parce que sinon, ils recevront la misère des pauvres. Mais en disant cela, est-ce que vous ne accordez pas une importance qu'ils n'ont pas? Parce que c'est comme si on pensait qu'on a besoin de l'Occident pour pousser. Mais est-ce qu'on peut nous-mêmes, de par des stratégies internes, avoir une politique qui nous permet de nous développer sans l'Occident? C'était ça ma question. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen pour l'Afrique, pour les Africains, par une politique de repli identitaire et puis de repli économique et politique, de se développer sans recourir à l'Occident? Puis là, je pense à certains pays émergents qui sont partis de rien, mais qui se sont respectés à eux-mêmes, puis qui n'ont plus rien à envier maintenant aux Occidentaux. Merci beaucoup.
Merci. Lutter pour un développement à l'intérieur même de l'Afrique ne suppose pas nécessairement un repli identitaire. Hein. On a besoin d'échanges, de dialogues. On est maintenant dans une situation où les États du monde organisent des macrostructures pour exister. L'Afrique ne gagnerait rien à s'enfermer. Hein. Elle s'appauvrirait. Elle a besoin des autres. Aimé Césaire disait, une civilisation, quel que soit son génie intime, à s'enfermer sur elle-même s'étiole. Donc l'Afrique ne gagnerait rien du tout à se couper des autres. Elle doit juste avoir le courage de négocier aussi en défendant ses intérêts. Parce que les Occidentaux défendent leurs intérêts quand ils sont dans des négociations avec l'Afrique. Et le problème qu'on a, c'est est-ce que nos politiciens sont suffisamment autonomes et propres dans leurs idées pour défendre dignement les intérêts de l'Afrique? La question, elle est celle-là. Mais on n'a pas besoin de rejeter l'Europe hein, ou l'Occident. Personnellement, je ne pourrais pas, hein, je ne rêve même pas de rejeter qui que ce soit. Je veux juste faire valoir ma dignité humaine en face de la dignité humaine de l'autre, une reconnaissance mutuelle. Et c'est pour ça, le partenariat, il y a un livre de Hors scolaire, le président allemand l'avant-dernier là. Et il a organisé des journées de rencontres de partenariat avec l'Afrique et il avait invité des Africains de tous les pays, des chercheurs, des cadres, des travailleurs, des employés pour débattre à égalité au Ghana. Il a organisé ça à Accra. Il aurait pu faire ça à Berlin ou à Bonn. Il a fait ça à Accra. Et ce sont les Européens qui sont venus à Accra pour voir la réalité africaine sur place et discuter avec les gens qui travaillaient quotidiennement dans ces milieux-là. Et cette proposition-là fait que nous aussi, on peut faire valoir notre opinion dans la vision de l'avenir commun à fabriquer. Voilà, je crois à ce développement possible de l'Afrique. La deuxième chose, c'est que qu'on le veuille ou pas, l'Afrique pense toujours que son avenir dépend de l'Occident. Qu'on le veuille ou pas, je dis bien, hein, sinon il n'y aurait pas tous ces jeunes qui meurent sur les routes de l'immigration. Donc c'est encore une réalité où c'est le message pour l'information qui passe mal. Ou alors le rêve est tout simplement ancré. En Europe, au XVIIIe siècle, on disait le voyage forme la jeunesse. Mais pourquoi le voyage formerait-il la jeunesse européenne et pas la jeunesse africaine? Est-ce que les Africains seraient assignés à résidence? Pourquoi tout le monde a le droit de circuler? Le monde du libre-échange, même les marchandises circulent et pas les humains. Et là, ça pose une autre question carrément éthique. Vous savez, les pays riches ne sont pas contre l'immigration. Ils sont contre l'immigration des pauvres. Ce sont ceux-là qu'on ne veut pas. Si Jennifer Lopez débarque à Paris demain et elle veut une villa, elle l'aura avant la fin du mois. Et les papiers qu'il faut. Mais si ma sœur quitte son village et puis elle veut s'installer en Alsace, je vous garantis que d'ici 2025, peut-être que nous serons encore en train de régler des papiers. Donc c'est l'immigration des pauvres qu'on ne veut pas. C'est celle-là qui est dérangeante. Mais d'un autre côté, je crois aussi que l'Europe n'a pas tout à fait envie que l'Afrique se dégage de sa tutelle. Je m'explique. Le Bénin, à l'échelle internationale, c'est tout petit. Le Burkina, le Sénégal, pareil. Mais à l'échelle des négociations de l'ONU, quand la France vote dans une direction et qu'elle a des moutons derrière elle, le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, et tout le monde vote en fonction de ses choix, c'est une puissance à l'échelle internationale. À l'intérieur des nations, ça reste encore une surface d'influence qui l'aide à faire passer son point de vue dans le grand jeu d'échecs international. Et ça, l'Afrique aussi doit comprendre ça. Troisième point, la jeunesse africaine absolument abondante est plus que nécessaire à l'avenir de l'Europe. Parce que l'Europe a une population vieillissante. Quand vous allez en Afrique, vous avez presque la moitié de la population dans des pays comme le Sénégal, ils sont âgés entre 15 et 20 ans. C'est une force de labeur et l'Europe aura besoin d'aller les recruter. Et je vais vous dire une chose, le cheptel de l'Occident, c'est maintenant en Afrique, ils vont se disputer les troupeaux de jeunes gens. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent une main-d'œuvre qualifiée, abondante et pas chère. Et ça, ce n'est pas que l'Europe. Les Américains, les Européens, tout le monde se dispute maintenant la clientèle là-bas. Et j'en veux pour preuve toutes les bourses que l'Amérique met maintenant à disposition, même pour les pays francophones. Voilà. Et c'est une manière d'attirer la jeunesse africaine. On parle de la fuite des cerveaux, mais elle est totalement organisée par les pays puissants. Et ça, nous, on doit être conscients de ça pour agir et retenir peut-être en investissant sur place. Troisième chose, il faut que j'arrête de faire ma Ségolène Royale.
C'est le quatrième.
Quatrième chose, au lieu de mettre des usines de pièces détachées en Afrique, qu'on mette de vraies usines. Si les gens travaillent là-bas et fabriquent la voiture de A à Z là-bas, on aura le designer sur place, on aura celui qui est responsable de la production sur place, on aura des commerciaux sur place, c'est-à-dire on aura des gens avec des emplois qualifiés, dignes et payés comme il faut. Et là, on pourra retenir des gens chez eux pour travailler au lieu de partir comme immigrés clandestins. Donc voilà, il y a beaucoup de choses encore à creuser dans ce sens. Et je ne prônerai jamais un rejet de l'Occident, je prône un dialogue des cultures comme le prônait Senghor déjà d'ailleurs, le rendez-vous du donner et du recevoir. Et il reste toujours ma récitation, hein. Vous n'allez pas y louper.
Alors, on va arrêter pour les questions du public, et effectivement, c'est un morceau de bravoure, je veux que Fatou nous récite.
Peut-être prendre le micro et se mettre devant.
Oui, parce qu'assise, je ne pourrais pas.
Non, c'est tout.
J'espère que ce n'est pas enregistré.
C'est magnifique de t'écouter.
Merci au professeur
Françoise.
Si mes livres sont bons, c'est grâce à moi. S'ils sont mauvais, c'est la faute de mes professeurs.
Mais c'est un professeur aussi.
Aujourd'hui.
Elle porte la casquette de professeur aussi.
Je suis étudiante. Parce que je m'en mets.
Peut-être te mettrai devant et prends la...
Non, je serai trop petite. Je le suis déjà.
Ok, mais je vais te laisser.
Non, c'est bon, bouge pas. Je me mets là.
Attends, regarde, ça va.
Non, elle veut que je descende, je n'ose pas. La question. Puisqu'on parle d'immigration, d'Europe, d'Afrique, elle m'abandonne. Oh. Alors la question, chez moi ou chez l'autre, être hybride, l'Afrique et l'Europe se demandent perplexes, quel bout de moi leur appartient. Je suis l'enfant présenté au sabre du roi Salomon pour le juste partage. Exilé en permanence, je passe mes nuits à souder les rails qui mènent à l'identité. L'écriture est la cire chaude que je coule entre les sillons creusés par les bâtisseurs de cloisons des deux bords. Je suis cette kéloïde qui pousse là où les hommes, en traçant leurs frontières, ont blessé la terre de Dieu. Lorsque las d'être plongé dans l'opaque repos nocturne, les pupilles désirent enfin les nuances du jour. Le soleil se lève inlassablement sur des couleurs volées à la douceur de l'art pour borner le monde. Le premier qui a dit « celles-ci sont mes couleurs » a transformé l'arc-en-ciel en bombe atomique et rangé les peuples en armée. Vert, jaune, rouge, drapeau sénégalais ou bleu, blanc, rouge, drapeau français. Ce sont des barbelés, évidemment je préfère... Le mauve, cette couleur tempérée, mélange de la rouge chaleur africaine et du froid bleu européen. Qu'est-ce qui fait la beauté du mauve? Le bleu ou le rouge? Et puis, à quoi sert-il de s'en enquérir si le mauve vous va bien? Le bleu et le rouge, les champs et les loups, je les ai dans la tête, je les emporte partout avec moi. Où qu'on aille, il y aura toujours des champs et des loups, ce n'est pas une question de frontières. Je cherche mon pays, là où l'on apprécie l'être additionné sans dissocier ses multiples strates. Je cherche mon pays, là où s'estompe la fragmentation identitaire. Je cherche mon pays, là où les bras de l'Atlantique fusionnent pour donner l'encre mauve qui dit l'incandescence et la douceur, la brûlure d'exister et la joie de vivre. Je cherche mon territoire sur une page blanche, un carnet ça tient dans un sac de voyage. Alors, partout où je pose mes valises, je suis chez moi, comme ce soir à Montréal. Aucun filet ne saura empêcher les algues de voguer et de tirer leur saveur des eaux qu'elles traversent. Racler, balayer les fonds marins, tremper dans l'encre de sèche, écrire la vie sur la crête des vagues, laisser souffler le vent qui chante mon peuple marin. L'océan ne berce que ceux qui l'appellent. J'ignore l'amarrage. Le départ est le seul horizon offert à ceux qui cherchent les mille écrins où le destin cache les solutions de ces mille erreurs. Dans le rugissement des pagaies, quand ma mamie maman murmure, j'entends la mère déclamer son ode aux enfants tombés du bastingage. Partir, vivre libre et mourir comme une algue de l'Atlantique. Je vous remercie. Merci. Et merci à vous tous d'être venus.